I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Bang Geek Mafia. Bang Geek Mafia, c'est votre émission d'infoculture tous les mercredis de 19h à 20h. Salut Seb.
Salut Oliver.
Comment ça va?
Ben ça va très bien, et toi?
Alors, on se fait une petite émission tous les deux.
Tous les deux.
On embrasse ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui ne sont pas là. En tout cas, ils nous ont envoyé leurs chroniques et on a hâte de pouvoir les découvrir avec eux.
Oui, on a tout reçu, c'est bon, il n'y a pas de problème. Les pigeons sont passés, les signaux de feu aussi, donc on devrait pouvoir faire une émission sans aucun problème.
Eh bien, pour commencer cette émission, on va commencer par une chanson des Quarter Flash, Hard on My Heart. C'est pas tout jeune, mais c'est toujours agréable de pouvoir l'entendre. Donc sur Radio G.
101.5.
C'était les Quarter Flash avec Ardan Marat. C'est pas tout jeune, mais c'était toujours agréable à écouter.
Bah, c'est agréable à écouter, mais ça doit être aussi agréable à voir, puisqu'apparemment, le clip, il y a des surprises à l'intérieur.
Le clip, moi, j'aime bien regarder des clips des années 80, parce qu'on trouve des gens qui ont percé qu'après. Et donc là, le clip est un peu psychédélique des années 80, donc elle danse. Et derrière, bah, il y a comment on pourrait dire
Une personne de petite taille.
Et qui danse derrière. Et en fait, cette personne-là, je l'ai reconnue. Alors, avec une perruque, mais habillée un petit peu dans les années 80 aussi. Mais il
passe partout.
Et non, c'était Tyrion de la série Game of Thrones. Et je pense que ça, il doit pas être super, super fier quand ça ressort.
Oui, mais bon, quand on a besoin de croûter, des fois. Pour les.
En tout cas, c'est clair. Bon, alors, donc, on va reprendre le cours de l'émission. Un petit jiggle série.
C'est pas... Qui êtes-vous?
Je suis le nouveau numéro 2.
Qui est le numéro 1?
Vous êtes le numéro 6.
Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
Et oui, un homme libre. Alors, comme série, eh ben, on a Sébastien qui nous a envoyé une chronique série. Donc, ben,
on va écouter ça.
Mais ça va être un plaisir de l'écouter.
D'ailleurs, on lui fait un petit coucou.
Ouais, petit coucou. Allez, salut.
Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
La radio qui fait le point. 101.5 FM. J'ai dit quoi? 101.5?
Salut à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler de trois séries télé, Derry Girls, Family Business et Ozark. Alors, Derry Girls, ou les filles de Derry, c'est une série télévisée nord-irlandaise. Elle est créée par Lisa McGee et elle retrace les aventures de quatre adolescentes irlandaises et du cousin anglais de l'une d'elles au début des années 90 dans une des villes les plus touchées par le conflit nord-irlandais. Et la série a commencé en janvier 2018 sur Channel 4. Donc l'histoire se déroule à Derry, en Irlande du Nord, pendant le conflit nord-irlandais du début des années 90. Et c'est l'histoire de quatre jeunes filles, Erin, Claire, Michelle et Orla, qui se rendent tous les jours à l'école catholique pour filles de la ville. Et puis c'est aussi l'histoire du cousin anglais de Michelle, qui devient le premier garçon à intégrer l'établissement. En fait, dans cette série, Lisa McGee, la réalisatrice et scénariste, elle raconte sa propre adolescence. Et la série est vraiment très drôle et très grinçante. Donc pour l'instant, on a deux saisons de Derry Girls. Une troisième saison est prévue prochainement. Il faut quand même signaler que le premier épisode a battu un record d'audience pour le lancement d'une série avec 2,8 millions de téléspectateurs. Et la série reçoit un accueil enthousiaste des deux côtés de la frontière irlandaise. En décembre 2018, la première saison a reçu 100% de critiques positives sur le site Rotten Tomatoes, avec une note moyenne de 7 sur 10, ce qui lui vaut un statut vraiment de qualité. Et elle est listée parmi les 50 séries télévisées de l'année 2018 par The Guardian, à la 6e place. Donc voilà, une série de qualité, drôle, très sympa, Derry Girls, n'hésitez pas. Deuxième série ce soir, Family Business. Alors là, tout part en fumée dans cette série française créée par Igor Gottesman et diffusée depuis juin 2019. Alors, c'est l'histoire de Gérard Hazan qui travaille dans le Marais et il tente tant bien que mal de maintenir sa boucherie cachère, sa boucherie familiale depuis le décès de sa femme Bénédicte. Mais c'est surtout l'histoire de son fils Joseph qui est un entrepreneur raté et qui pense cependant avoir la solution. En effet, il tient de sources sûres que le cannabis va être légalisé prochainement. Il tente alors de convaincre le reste de la famille de transformer la boucherie en coffee shop, en bûcherie, premier coffee shop de France. Et en attendant cette légalisation, les Hazan vont cependant devoir cacher leur business. Alors les acteurs principaux, c'est Gérard Darmon, c'est Jonathan Cohen qui est génial, Julia Piaton et Liliane Rovert que vous avez vu dans 10%. Et les acteurs qui ont des rôles secondaires sont aussi hyper drôles. Par exemple, Enrico Macias, qui joue son propre rôle. Donc la saison 2 vient juste d'être diffusée et mise à disposition sur la plateforme Enix. On a annoncé en octobre 2020 que la série reviendra pour une saison 3. Et qu'elle sortira prochainement sur la plateforme. Parce qu'effectivement, à la fin de la saison 2, on a un teaser, on a un cliffhanger, comme disent les Américains. Et c'est sûr, il y aura une saison 3. Alors dans l'Express, Valentin Pimard considère la série comme la création Netflix France la plus réjouissante à ce jour, et dans Télérama, Pierre Langlais la qualifie de sympathique grâce à une excellente distribution, comme je vous le disais. Quelques critiques négatives dans le Figaro. On trouve que c'est trop sage au vu du sujet, que c'est faussement transgressif. Dans Première, que ça cherche son ton entre farce et satire sociale. Mais c'est pas un ratage, comme dit Le Monde. Voilà. Si, moi, j'adore Jonathan Cohen, donc si vous aimez Jonathan Cohen, n'hésitez pas à regarder Family Business. 2 saisons pour l'instant, 2 saisons de 6 épisodes. C'est facile, c'est parfait. Et enfin, Ozark, c'est une série télévisée dramatique américaine créée par Bill Dubuc et diffusée depuis 2017. Alors, c'est l'acteur Jason Bateman qui est l'interprète principal de la série, ainsi que le réalisateur de plusieurs épisodes. Et la première saison est composée de 10 épisodes, dont 9 épisodes d'une heure et un final de 80 minutes. Et les deuxième et troisième saisons comptent chacune aussi 10 épisodes. Alors, de quoi ça parle ? La série raconte la vie de Marty Bird, un conseiller en gestion financière, et de sa femme Wendy. Marty est en fait chargé de réaliser des blanchiments de capitaux pour le deuxième plus gros cartel du Mexique. Mais lorsque ce même cartel se rend compte que de l'argent a disparu, Marty fait déménager sa famille de la banlieue de Chicago au lac Ozark, une station balnéaire des monts Ozark, c'est-à-dire des grands lacs situés au cœur de l'Amérique, dans le Missouri. Et il est confronté à un baron de la drogue mexicain qui compte obtenir le remboursement de sa dette. Alors, les acteurs principaux sont Jason Bateman et Laura Linney. Alors Jason Bateman, vous l'avez vu dans beaucoup de films. Et Laura Linney, je me souviens de l'avoir vu dans, le Truman Show avec Jim Carrey. Donc c'est intéressant, l'histoire est intéressante et surtout on découvre un paysage, on découvre une région, une station balnéaire au bord de l'eau, au lac des Ozarks. Le créateur de la série d'ailleurs a travaillé comme docker alors qu'il fréquentait une université dans les années 80. Il y a aussi ce qui est intéressant souvent aussi dans les séries, c'est le générique. Et là, le graphiste Fred Davis a créé une lettre blanche, un O blanc, qui apparaît sur un fond noir au début de chaque épisode. Le cercle est divisé en 4 quartiers, dans lesquels on retrouve 4 symboles qui préfigurent les principaux points de l'intrigue de cet épisode. En plus, chacune de ces images symboliques dessinées à la main est formée pour représenter les lettres restantes dans Ozark. Par exemple, pour l'épisode 1, un homme agenouillé représente un Z, un bâtiment représente un A, une arme à feu représente un R et un homme qui tombe représente un K. Alors comme souvent, la critique est mitigée face à une série. Dans Télérama, on juge qu'il y a quand même 2 excellents comédiens, une intrigue plutôt efficace, un récit rythmé, un décor séduisant. On ne peut pas dire qu'on s'ennuie devant Ozark. Après, il faut pouvoir se passionner pour ce drame qui est finalement classique, qui est pas mal fait, qui est bien joué. Voilà. Et puis, le magazine Première lui est plus élogieux. Ils disent pas que Ozark c'est le nouveau Breaking Bad, mais ou même qu'il arrivera un jour à la cheville du chef-d'œuvre de Vince Gilligan. Mais elle partage, et c'est vrai, avec sa glorieuse aïeule, un même esprit, une volonté persistante d'interroger intelligemment la psychologie humaine, autant que les obligations sociologiques de notre monde, et à la marge l'économie souterraine qui alimente le crime. Et puis quand même quelques distinctions pour cette série. Aux Emmy Awards 2019, une meilleure réalisation pour Jason Bateman pour l'épisode Réparation, et meilleure actrice dans un second rôle pour Julia Garner. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Je vous rappelle 3 séries à découvrir ou à revoir en ce moment. Ozark, Family Business et Derry Girls. Salut et à bientôt.
Salut.
Attends, tu vas voir, ça passe à la radio là.
Salut Seb, ben en tout cas merci pour ces séries.
Merci pour ces séries, on va essayer de les regarder avec attention.
Alors
quand
Family
même.
Business, moi j'ai commencé à regarder, j'ai énormément apprécié, mais évidemment actuellement des séries, il y en a plein, et ça devient compliqué de pouvoir terminer les séries qui arrivent et puis celles qui recommencent.
Ça devient un petit peu une usine à gaz aussi en même temps, parce qu'on a de plus en plus de plateformes qui proposent des séries, et des séries qui parfois en plus se ressemblent avec d'autres choses. Ça devient très complexe. Hein,
ouais, c'est compliqué. Alors effectivement, après derrière, c'est soit on se tient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, soit on se tient sur une série et puis on accepte de faire saison 1, saison 2, saison 3, et puis effectivement, des fois on est souvent un peu déçu parce qu'après il n'y a plus grand chose à faire.
On a fait le tour, hein.
Mais quand on a des séries one shot ou des petites choses, et ben on a envie de les regarder et c'est vrai ça, que c'est toujours un plaisir.
Moi je trouve que c'est plus intéressant les one shot là, au moins comme ça on est tranquille, on sait le format, on connaît le format, on connaît l'histoire. Après on se dit bah oui, ça serait peut-être bien qu'il y ait une suite, mais qu'il n'y a pas de suite, c'est pas plus mal aussi, ça laisse travailler l'imaginaire.
Ouais. C'était la conclusion.
C'était la conclusion. C'était la minute philosophique de Monsieur Cyclopède.
Donc on va pouvoir continuer avec le groupe T-Rex et Bang O'Gong, Get In On. Attention sur Bang Geek Mafia.
Sur
sur Radio G 101.5, la radio qui fait le pro.
C'était T-Rex, ça fait du bien d'entendre.
Ben oui, oui, oui. D'ailleurs, ça plaît à nos auditeurs puisqu'ils nous téléphonent directement. On fait un petit coucou à Pascal, là, qui nous a gentiment passé un coup de téléphone pour nous dire qu'il aimait bien l'émission, qu'il aimait bien le morceau de musique.
Merci, Pascal.
Pour nous demander aussi un petit morceau de musique, on va essayer d'arranger ça.
On va essayer de lui faire plaisir.
On va essayer de lui faire plaisir.
Alors là, petit jingle pour toi.
Oh, pour moi, merci.
Pour lancer ta série. Alors,
Oh, c'est un peu court, jeune homme.
C'est un peu court. Alors, Seb, qu'est-ce que t'as pour nous ?
Alors, pour vous, j'ai une bande dessinée aux éditions Grand Angle, dans une série que j'aime bien, qui s'appelle Les Compagnons de la Libération. Donc, ce sont à chaque fois des bandes dessinées one-shot qui vont retracer le parcours d'un de ces personnages, qui est les Compagnons de la Libération. Les Compagnons de la Libération, c'est-à-dire ceux qui ont les résistants de première heure, qui ont rejoint justement le général de Gaulle. Alors là, en l'occurrence, on va s'intéresser au cas de Romain Gary. Est-ce que tu connais Romain Gary ?
Mais non, je le connais pas.
Tu connais pas.
Honte à moi.
Honte à toi. Et pourtant, Romain Gary, c'est un écrivain qui a une histoire qui est totalement rancobolesque. Il a surtout aussi une mère qui avait décidé finalement dès son plus jeune âge que ce dernier serait ambassadeur de France, qu'il serait un héros. Elle avait tracé son plan de carrière alors même que le gamin était à peine né, comme on peut dire. Et c'est vraiment une histoire qui est vraiment très marquante, très touchante. D'ailleurs, Romain Gary en a fait un livre qui s'appelle La promesse de l'aube, qui a été réalisé et mis en film il y a quelques années déjà, justement avec Charlotte Gainsbourg aussi dans le rôle de la mère. Et moi, je vous conseille le film. Il est vraiment vraiment magnifique. C'est touchant. C'est tout l'amour qu'une mère peut porter au point et tous les espoirs qu'une maman peut avoir vis-à-vis de son fils. Par contre, c'est un petit peu dramatique pour le gamin parce que s'il essaye de dévier d'un peu de la route, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on retrouve donc notre personnage, Romain Gary. On le retrouve juste au moment où il essaye de quitter finalement la France qui vient de connaître la défaite, alors qu'il est à l'école de l'air. Dans le sud de la France, et donc on commence l'histoire là, et ensuite on suit tout son parcours qui va l'emmener jusqu'en Angleterre, de l'Angleterre en Afrique, et puis ensuite de l'Afrique de retour à Londres, et de Londres justement sur la France, sur le territoire de la France.
De la France à nous.
De la France à nous et notre territoire métropolitain qui, à ce moment-là, était donc occupé. Et donc, cette mission qui va lui laisser quand même des souvenirs assez importants. Donc voilà. Et puis, on termine avec cette bande dessinée aussi par un cahier de présentation, d'explication, de présentation et de photos de ce personnage qui est Romain Gary.
Alors moi je trouve ça toujours super quand après les BD on se retrouve toujours avec une petite part qui nous ramène soit sur l'histoire, sur la vie réelle, et moi j'aime toujours ça.
Voilà. Tout à fait. Alors la deuxième bande dessinée, je ne l'ai pas encore eue en main. J'ai pas encore réussi à la trouver, pourtant elle vient juste de sortir. C'est toujours aux éditions Grand Angle. Je trouve que cette maison d'édition, quand même, elle est quand même assez, assez dynamique. Et puis les BD qu'elle propose, elles sont assez intéressantes. Là, il y a une bande dessinée qui va sortir ou qui est sortie, donc cette semaine, la semaine prochaine à peu près, qui s'appelle Ellis Island, Iceland, de Charlo Imiras. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette bande dessinée. En avril 1907, jeune Sicilien plein d'enthousiasme et d'illusions, Tonio a décidé de tenter sa chance en Amérique. Grâce à l'argent qu'il a réuni pour lui, qui a été réuni pour lui par les gens de son village, il réussit à partir. Après 15 jours de traversée depuis l'Europe, il s'apprête à fouler le sol américain pour la première fois. Comme tous les émigrants, il doit dans un premier temps passer par Ellis Island, l'île porte d'entrée pour tous les nouveaux arrivants, avant d'obtenir le droit de s'installer aux États-Unis. Ce qu'il ne pensait être qu'une formalité se transforme rapidement en un cauchemar administratif. Aux côtés de tous les malades, handicapés et autres personnes âgées qui ne répondent pas aux critères et qui sont renvoyés illico presto, Tonio échoue, lui aussi, aux portes du paradis. Avec son ami Giuseppe, rencontré durant la traversée, il se retrouve en quarantaine sur l'île, cherchant désespérément un moyen de gagner le continent. Vito, un avocat véreux, originaire d'Italie, propose de faire marcher son réseau, offrant ainsi une chance unique aux deux candidats de s'installer en Amérique. Il faudra beaucoup d'abnégation et de courage aux deux amis pour forcer le destin et découvrir que le rêve américain peut vite se transformer en enfer.
Ouais. Ça me rappelle un peu l'histoire du film. Alors Leonardo DiCaprio, quand il arrive aux États-Unis, c'est alors je sais plus où justement l'arrivée des migrants et
Gang of New York,
c'est ça, ouais. Et l'arrivée où les gens sont avec plein d'espoir et tombent dans la misère la plus totale et justement dans les gangs et ainsi de suite.
Ah bah dans les gangs et ainsi de suite. Alors donc là c'est vrai que moi sur le peu que j'ai vu sur cette bande dessinée, ne serait-ce que graphiquement, ça a l'air d'être vachement attirant. L'histoire effectivement c'est une histoire qui est un petit peu mal exploitée, mal connue, et donc ça mérite un petit peu d'aller fouiller tout ça. Donc voilà.
Donc c'est aux éditions Grand Angle.
Aux éditions Grand Angle.
Donc s'ils nous entendent, on serait ravis de recevoir la BD, c'est ça? Parce qu'on n'arrive pas à la voir.
Voire même toute leur nouveauté. Disons que la maison d'édition Grand Angle, on va pas faire la publicité uniquement pour eux. Elle est aussi connue parce que c'est une branche de la maison d'édition Bambou. Pour ceux qui connaissent les profs, les petits mythos, les rugbyman, tout ça. Donc c'est une maison d'édition qui est en train de prendre de l'importance quoi finalement sur le sol.
C'est bien.
Ouais, c'est bien. Donc je vous rappelle les deux titres des bandes dessinées, Ellis Island, Welcome to America, de Charlot et Miras. Normalement il y aura deux volumes, hein, donc là c'est le volume 1 qui vient de sortir. Et puis toujours aux éditions Grand Angle, dans la série Les Compagnons de la Libération, Romain Gary, de Catherine Valenti et de Claude Plumail.
Eh ben merci Sébastien.
Mais de rien.
Alors pour continuer, ben justement Pascal nous a demandé un petit Van Halen et ça, ben on peut toujours se faire plaisir.
Oui, tout à fait.
Donc sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Nothing.
Eh oui. Eh bien, on a sauté.
Paix son âme. Paix son âme. Donc là, il y en a un qui est décédé, malheureusement, devant Alain. Mais bon, maintenant, ils commencent à plus être tout jeunes, ces groupes-là.
Ah bah, puis ils ont bien donné. Ça nous permet de faire un petit coucou à tous nos auditeurs. On fait un coucou à Anaïs, là, qui vient de nous passer un petit message.
Ouais, salut Anaïs.
Salut Anaïs. Moi, je fais un petit coucou aussi à des camarades qui peuvent peut-être nous écouter du côté de Cholet. Hein. Salut Jeff.
Donc, on est reçu jusqu'à Cholet.
Ouais, on est reçu jusqu'à Cholet grâce à Internet.
Vive Internet.
N'oubliez pas le site hein, www.radio-g.fr et puis de nous écouter sur le 101.5 aussi en même temps.
C'est ça. Alors là, on va continuer avec Pablo. Donc, jingle de Pablo.
Yo les bandes geeks, ça fait plaisir de vous retrouver en direct d'Angers, en direct Radio G. On va continuer notre voyage cérébral à travers la philo. Je vous propose soit un philosophique, soit une série philo, ou encore un petit cinéphilo. Voilà, à vous de choisir, à vous de choisir, à vous de choisir.
Alors Pablo, maintenant on va t'écouter pour ta chronique sur l'Odyssée de Pi. En avant pour avec toi Pablo.
Je m'appelle Pi Patel. J'étais dans un bateau qui a coulé. Je suis sur un canot de sauvetage tout seul avec un tigre. S'il vous plaît, envoyez des secours. Audio cinéphilo. L'Odyssée de Pi, Life of Pi, de Ang Lee, 2012. Georges Bataille écrit, de point ouvrez les guillemets, « L'animal ouvre devant moi une profondeur qui m'attire et qui m'est familière. Cette profondeur, en un sens, je la connais, c'est la mienne. Elle est aussi ce qui m'est le plus lointainement dérobé. Ce qui mérite ce nom de profondeur, ce qui veut dire avec précision « ce qui m'échappe ». Fermez les guillemets. L'Odyssée de Pi, Life of Pi de Ang Lee, raconte l'histoire incroyable et fascinante d'un jeune indien passionné de religion et de spiritualité qui va errer sur l'océan Pacifique avec pour seule compagnie un redoutable tigre du Bengale. En effet, le cargo, qui devait amener sa famille et leurs eaux d'Inde au Canada, coule lors d'une tempête. Pi se retrouve alors sur un canot de sauvetage perdu au milieu de l'océan. Tout l'enjeu sera de survivre et d'établir un lien de communication avec le tigre avec qui il partage le canot. Ces animaux sont montrés sur le plan esthétique, dans leur diversité de formes et de couleurs, le chatoiement de leur pelage et plumage. Ils renvoient notre émerveillement face à la beauté énigmatique du vivant. Sur le plan métaphysique, y a-t-il une différence fondamentale entre l'homme et l'animal ? Cette distinction métaphysique entre l'homme et l'animal n'est-elle pas une fiction ? Peut-il exister un lien empathique, une communication, voire un échange entre homme et animal sauvage ? Le film nous montre-t-il que nous sommes dans une altérité radicale avec l'animal, voués les uns comme les autres à une extériorité, à une frontière infranchissable de l'un à l'autre ? Et alors le film n'est-il pas le récit d'une fiction, une fable moderne et malicieuse proposée par Ang Lee dans la pure tradition des fabulistes, Ésope, La Fontaine, ou des romanciers comme Rudyard Kipling dans Le Livre de la Jungle, ou Tarzan l'homme singe, La Ferme des animaux de George Orwell, Les animaux dénaturés de Vercors. Sur le plan éthique, quelles relations avons-nous aux animaux ? Ces relations semble osciller entre crainte et respect, attachement et fascination, et nous lier ensemble par empathie. Ne pouvons-nous que dresser ou dompter un animal sauvage? Ou au contraire, est-il possible de l'apprivoiser, d'en faire un ami, comme le propose Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, lors de sa rencontre avec le renard? Mais nous avons aussi une relation très utilitaire et pragmatique aux animaux. Ils nous rendent service, nous les utilisons, parfois même de façon la plus inhumaine qu'il soit, comme dans l'élevage et l'abattage industriel, ou encore l'expérimentation scientifique, pharmaceutique ou cosmétique. Il semble qu'une triple relation à l'animalité se dégage et est manifestée dans le film, esthétique, éthique et métaphysique. Personnage principal, narrateur de cette étrange histoire qui va nous être contée, s'appelle Piscine Molitor Patel. En raison de la passion de son oncle Mamadji pour la nage et la piscine. Ce nom est celui d'une célèbre piscine du 16e arrondissement de Paris, ouverte depuis 1929. C'est ce dernier qui va l'initier à la nage et à l'eau, ce qui sera fondamental pour sa survie après son naufrage lorsqu'il sera sur l'océan. Plus tard, à l'école primaire, pour échapper aux moqueries de ses camarades à propos de son prénom, Piscine se renomme lui-même Pi. D'ailleurs, il a mémorisé toute la suite des chiffres du nombre mathématique Pi. 3,14, 159, 265, etc., etc. Qui est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Quelle est la symbolique de Pi ? Représente-t-il l'infinie insignifiance de Pi, de l'homme, mais aussi sa transcendance? Est-ce le véritable nom de Dieu? Son nom mathématique qui synthétise le réel ou l'ensemble de ce qui est? Ce qui est certain, c'est que le film, au-delà de son interrogation sur la relation homme-animal, nous interroge sur la quête mystique de Dieu. L'écrivain canadien qui interroge Pi sur son récit lui rapporte les paroles de Mamadji. Ce dernier a dit que votre histoire allait sans doute me faire croire en Dieu, mais aussi sur la relation entre raison et irrationnel, ce que l'on veut ou peut expliquer, prouver et démontrer, et ce que l'on veut ou peut croire. Entre 22 minutes et 30 minutes, il y a une première rencontre avec le tigre Richard Parker et notre héros Pi. Pi est fasciné par le tigre du Bengale du zoo et veut le voir de plus près. Il entraîne avec lui son grand frère. Tous deux descendent dans la partie du bâtiment où on le nourrit à travers sa cage. Pi prend un morceau de viande crue et appelle le tigre. Son frère, effrayé, s'enfuit. Il va chercher leur père. Le tigre attiré s'approche lentement et prudemment. La scène se déroule au ralenti, dans le calme, comme si le temps se figeait momentanément, selon les codes de la rencontre amoureuse. Leurs regards se plongent l'un dans l'autre, de la même façon que les regards amoureux de Pi et de la danseuse Amandy un peu plus loin dans le film, quand il sera devenu adolescent. Cette scène joue le rôle plutôt d'une rencontre amicale, du moins pour Pi qui croit rencontrer un ami. Là-dessus, son père arrive, furieux, et interrompt la scène, in extremis, au moment où le tigre allait prendre le morceau de viande dans sa gueule. Surpris, le tigre fait un bond en arrière sur la défensive, prêt à l'attaque. Le dialogue qui suit entre père et fils est très intéressant. Le père reproche à son fils d'avoir mis sa vie en danger, d'avoir manqué de perdre un bras peut-être. Ce tigre est une bête sauvage, on ne peut s'en faire un ami. Appa, tu crois que ce tigre est ton ami, hein? C'est un animal, pas un humain, Piscine. Pi, les animaux aussi possèdent une âme, je l'ai vu souvent dans leur regard. Appa, les animaux ne pensent pas de la même façon que nous. Ceux qui ont le malheur de l'oublier finissent par se faire tuer. Ce tigre-là n'est pas ton ami, compris ? En fait, ce que tu vois dans son regard, c'est le reflet de tes propres émotions renvoyées par ses yeux et rien d'autre. Fin du dialogue. Le tigre s'appelle Richard Parker. C'est en fait le nom du chasseur qu'il avait capturé petit. Une erreur administrative avait échangé les noms. Les parents de Pi avaient gardé ce nom de façon humoristique, comme s'il s'agissait d'un humain. Le nom est symbolique. Richard vient du germain Rick et Hart, qui veulent dire roi et fort. Et Parker veut dire le gardien du parc. Ce tigre serait donc un roi des animaux, le lion d'Asie. Fort et puissant, mais gardien de quoi ? De la forêt dont il est le roi, comme le lion est roi de la savane, du zoo, du canot sur l'océan. Certes, c'est lui le patron par la force sur l'embarcation, et donc son gardien dans un premier temps. Plus tard, Pi prendra soin de lui comme d'un chat apprivoisé. Il deviendra alors le véritable gardien. Ce qui est sûr, c'est qu'il porte un patronyme au même titre qu'un humain. Il est donc un sujet moral à l'égal de Pi. Plus tard, à 1h24 dans le film, bien après le naufrage du bateau, lorsqu'ils sont en mer, sur le canot de sauvetage, Pi observe le tigre Richard Parker, calme et apaisé dans la nuit sous les étoiles. Puis le tigre se tourne vers lui et tous deux se regardent mutuellement. Ils sont allongés dans la même position. Le parallélisme de leur corps est frappant. Pi lui dit « Qu'est-ce que tu regardes ? Parle-moi, dis-moi. » Silence de Richard Parker. Quelque chose résiste. Quelque chose de mystérieux et d'incompréhensible demeure entre nos deux âmes. Comme une barrière invisible, infranchissable, il y aurait une frontière ontologique d'essence, des caractéristiques fondamentales de l'être, entre l'homme et l'animal. D'autant plus que le tigre est un tueur. Pour lui en faire la démonstration et le marquer définitivement, son père, Appa, amène une chèvre vivante qui va se faire tuer sous leurs yeux. Au contraire, Pi semble penser qu'un point de communication ou d'échange est possible entre âme humaine et âme animale, notamment à travers le regard. Est-ce l'empathie naturelle ? Ce partage des émotions qui permet à chacun de se mettre à la place de l'autre, d'avoir un échange mutuel sur une base purement affective, sans passer par la réflexion. Quelle réflexion nous inspire ce passage et plus généralement le film ? Appa, le père, ne dénie pas au tigre la possession d'une âme. Ce qu'il nie, c'est qu'elle soit de même nature que l'âme humaine. Il dit « Les animaux ne pensent pas de la même façon. Quelque chose de mystérieux et d'incompréhensible demeure entre nos deux âmes, comme une barrière invisible, infranchissable, entre l'homme et l'animal. » La conception de l'animal d'Appa est intéressante. Elle s'inscrit dans une métaphysique et une rationalité ancienne, assez proche de celle d'Aristote, dans « De l'âme ». En effet, le philosophe explique que tout être vivant possède une âme, qu'il définit comme une forme distincte de la matière, et comme mouvement ou acte, distinct de l'inertie et du repos. Il distingue donc trois types d'âmes, correspondant à trois facultés fondamentales du mouvement. Premièrement, la faculté d'engendrement, de croissance et de nutrition, propre aux végétaux, aux animaux et aux humains. Deuxièmement, la faculté sensitive, la sensibilité et sensation, propre aux animaux et aux humains. Et troisièmement, la faculté intellective, l'intellect qui permet la connaissance, uniquement propre à l'humain. Trois types d'âmes donc, l'âme végétative des plantes, l'âme sensitive des animaux et l'âme intellective des humains, selon un ordre croissant hiérarchique, selon la capacité d'agir dans le monde. Cette métaphysique a longtemps influencé la pensée occidentale comme orientale, avant d'être remise en question à l'ère moderne, puis dans la pensée contemporaine. En tout cas, il lui dit que ce que Pi croit voir dans le regard du tigre n'est qu'un reflet, celui de ses propres émotions. De la même façon que nous voyons notre reflet dans l'iris de l'autre, Ce que Pi croit voir n'est en fait qu'une projection de sa bienveillance, de sa compassion, de son désir d'amitié. Ne serions-nous alors condamnés qu'à l'anthropomorphisme avec les autres animaux, qu'à la projection de nos propres émotions, interrogations et préjugés sur eux? Il est intéressant de voir que Pi, adolescent à Pondichéry, lit L'étranger d'Albert Camus. Que veut nous suggérer Anguy? Richard Parker est-il pour Pi comme Meursault, pour les autres personnages du roman, dans une intériorité de sa conscience, dans la plénitude de ses sensations, et nous spectateurs et lecteurs comme condamnés à rester au dehors, dans l'extériorité radicale de l'altérité, ne pouvant que deviner leurs pensées? Pi semble penser qu'un point de communication ou d'échange, au contraire, est possible entre âme humaine et âme animale, notamment à travers le regard. Est-ce l'empathie naturelle alors? Ce partage des émotions qui permet à chacun de se mettre à la place de l'autre, d'avoir un échange mutuel sur une base purement affective, sans passer par la réflexion. Au XVIIIe siècle, Rousseau l'appelait la pitié naturelle, ou encore Adam Smith, la sympathie, et y voyait l'origine naturelle de la morale. Aujourd'hui, les neuroscientifiques analysent ce phénomène de l'empathie et y voient l'origine dans des neurones miroirs que nous avons, les mammifères, dans le lobe frontal du cerveau et qui, à travers le regard, se connectent entre eux ou s'activent au son quand la personne est distante. Un peu comme si nos cerveaux se mettaient mutuellement en Bluetooth pour se détecter et se connecter ensemble, pour employer une image contemporaine. D'ailleurs, pour Pi, le tigre est Richard Parker. Il a une âme, une identité, une personnalité. Et toute son odyssée suivante montrera la tentative de compréhension, de compromis et de pacte entre eux. La position de Pi se rapproche de l'éthologie contemporaine, qui tente à atténuer l'idée de frontière entre animaux humains et animaux non humains, et réduire ce que l'on a longtemps considéré comme propre de l'homme. Je vous renvoie aux recherches et expériences du primatologue Franz De Waal ou de la psychologue Sarah Brosnan. Il est néanmoins vrai que la position de Pi relève de l'enchantement du monde. Il dit qu'après cette cruelle leçon que leur donna Appa, lors de la première rencontre avec le tigre Richard Parker, lorsqu'il oblige la famille à le voir tuer une chèvre, le monde avait perdu de son enchantement. D'ailleurs, le film fait une ellipse de quelques années. Nous retrouvons Pi adolescent, comme si cet épisode marquait la fin de son enfance. La capacité à s'enchanter du monde, de soi et des autres, à accueillir le monde dans une ouverture totale et curieuse, du désir de connaître, est une des caractéristiques de l'enfance. Elle est notamment développée par Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, précisément lors de sa rencontre avec le renard qui lui demande de l'apprivoiser. Anguy est astucieux. Il nous a servi une fable malicieuse en nous suggérant plus son sens qu'en nous le dévoilant clairement. Il dit « L'histoire vous appartient ». De notre réponse dépendra notre croyance ou pas en Dieu. Autrement dit, que préférons-nous? Un monde certes beau, mais aussi une réalité souvent sordide et banale, où l'être humain peut se révéler sous ses pires aspects, où la vérité est nue, où le réel est analysé et normé par la raison, et où Dieu est absent? Ou préférons-nous un monde dont on peut encore s'émerveiller, où humains et non-humains peuvent être des alter-égos? Une réalité qui garde sa part d'illusion et de mystère, de beauté ineffable, qui renvoie au mystère même de la foi divine. Si Anguy se fait fabuliste à l'occasion de ce film, la morale qu'il nous livre serait « Comment préférez-vous vivre et concevoir le monde ?» C'est une question de choix. C'est votre choix. Ainsi, outre la connaissance scientifique, se manifeste une triple relation philosophique des humains aux animaux non humains, et au-delà, à l'ensemble du vivant. Métaphysique, où se joue la dialectique du même et de l'autre. Esthétique, où se joue notre interrogation sur la beauté. éthique où se joue notre respect à l'égard des autres et de nous-mêmes. Merci, à bientôt.
Merci Pablo pour cette chronique philosophique.
Ouais, alors moi, je pensais que Pi c'était juste 3,14, mais non, en fait, c'est beaucoup plus que ça.
Oui, alors moi, par contre, je me pose une question métaphysique quand même, parce qu'on met une barque sur l'eau, on met un homme, on met un tigre. Est-ce qu'on est capable de faire 1h30 quand même ?
Il n'y a pas match nul surtout.
Ah non, c'est pas possible là. Non. Et après, deuxième question métaphysique quand même, hein, avec la nouvelle loi qui interdit justement les cirques et les animaux, comment...
Non, alors ça, ce n'est plus politiquement correct.
Allez, je sors.
Alors on va reprendre. Tu avais une petite annonce à nous faire. Alors, jingle, et on remercie Héloïse de nous fournir son jingle.
Et puis on lui fait coucou aussi en même temps.
On lui fait coucou, salut. Alors, Seb, qu'as-tu pour nous ?
Alors, c'est pas un jeu vidéo, mais c'est tiré d'un jeu vidéo. Bah, tout le monde connaît quand même le personnage de Mario.
À peine.
Oui, mais tout le monde voit à peu près. Hein.
Actuellement, c'est plus compliqué d'avoir un plombier que d'avoir Mario.
Oui, mais c'est plus facile d'avoir Mario, hein, de toute façon. Eh bien, voici maintenant Lego Mario.
Lego Mario.
Alors, c'est une association qui est complètement incroyable. C'est-à-dire qu'on a un personnage, donc Mario, mais qui, cette fois-ci, est en briques Lego. Et c'est non seulement un personnage qui est en briques Lego, mais qui est bourré de technologie aussi en même temps, parce qu'on a des mini capteurs, on a des petits sons vocaux, on a les yeux qui s'animent.
Dans un Lego.
Et du coup, on se retrouve dans se plonger dans cet univers de Mario, qui est propre à Mario, et on retrouve tout plein de personnages. Alors donc, on a un kit de démarrage, on a le Lego Mario, qui est donc bourré de technologie, comme on peut dire, qui est associé à Bowser Junior. Et puis donc, on va monter son petit parcours, et puis on va acheter des extensions, après on va faire un parcours monumental, et du coup les enfants comme ça peuvent s'amuser au Lego Mario, mais sans avoir d'écran.
Bah, c'est bien joué ça.
C'est super bien joué et c'est super addictif. Alors autant vous dire que c'est super marrant, parce que on a toutes les mimiques finalement de Mario, toutes ces petites phrases que l'on peut trouver aussi en même temps qui font partie du jeu, hein, et on les retrouve, les trucs.
Tu le fais super bien.
Il
y a un entraînement derrière.
Tout à fait. Hein. Donc voilà, suffit juste d'acquérir donc ce pack de démarrage. Moi, je vous le conseille quand même pour Noël, ça va cartonner à mon avis, parce que ça c'est carrément génial.
Alors là, tu vas être obligé de nous donner le prix quand même. Hein.
Ah bah le prix il est.
Du pack de démarrage,
une bonne cinquantaine d'euros quand même.
Ah oui, quand même, ça démarre bien.
Après, on a les packs, voilà, on a des packs qui vont être sur 18 euros. Ça part de 18 euros jusqu'à une centaine d'euros quand même à peu près en fonction des packs. Et en même temps, on peut aussi acheter pour 3 euros, 4 euros à peu près, des petits sachets où on a des petits personnages que l'on monte, qu'on peut rajouter justement pour illuminer.
Estampillé Lego.
C'est une association Lego Mario, hein, donc là tu vois, je te montre
j'atteste la vérité. Alors, il me l'a bien montré, voilà. C'est vrai.
Et donc voilà, donc il y a 231 pièces par exemple dans le pack de démarrage. Bien sûr, il faut quand même une petite application parce qu'il n'y a plus de notice de montage maintenant, c'est par l'intermédiaire d'une application. Ouais. Mais c'est pas plus mal non plus parce que du coup l'application permet de voir les pièces dans tous les sens en 3D, en rotation, donc du coup c'est pas mal. Et puis comme je dis là, comme on monte au fur et à mesure son circuit, eh bien les enfants ils peuvent imaginer des histoires comme ça. Donc
ouais, alors ça Lego, ça reste quand même le best avec
Playmobil.
Playmobil,
Lego, c'est bon, c'est
les deux. C'est hallucinant, hein, c'est que les enfants de ce côté-là, Playmobil ou Lego, alors on n'a pas le droit de donner de marque, mais on a donné quand même ces deux-là.
Ah, oui, bah oui.
Mais c'est vrai qu'il y en a un, c'est vraiment plus de la construction, et puis il y a quand même le côté un peu technologique, ouais, de Lego. Et puis alors je pense que Playmobil, c'est pour ceux qui adorent les histoires.
Pour les histoires.
Mais, comme
et
soir.
Là, du coup, moi je trouve que là, dans
c'est un compromis.
C'est un compromis entre les deux. Et du coup, là, c'est pas mal parce qu'en plus, on a des challenges parce que là, on a le point de départ, donc on a un temps qui est limité pour faire la totalité du parcours. Et celui qui récupère le plus de pièces, bien sûr, a gagné.
Ah.
Donc voilà. Donc, non, c'est vraiment.
On se retrouve on retrouve l'univers du jeu
Ah, on retrouve l'univers du jeu. De toute façon, on a les méchants, on a les copas, les gombas, les fleurs, les chompes. On a tout.
Ah, bah, c'est super. Mais en tout cas, merci beaucoup.
Voilà.
Puis, effectivement, c'est assez triste, mais c'est quand même la réalité. On commence déjà à voir toute la panoplie Noël qui apparaît à droite
à
gauche. Alors ça s'achète où ?
Alors ça s'achète où ? Bah on le trouve, on commence à le trouver en grande surface. C'est une sortie, hein, c'est sorti au mois d'août, hein, de cette année. On a quelques magasins de grands
spécialisés,
jouets spécialisés,
ouais,
qui ont. Autrement sur le site Lego ou autrement sur les plateformes.
Ah oui, donc c'est pas simplement une association
non,
qui
non,
a créé.
Ah c'est... non, c'est vraiment voilà quoi, c'est vraiment un concept. Ils ont mis plus de 4 ans quand même pour créer ne serait-ce que le personnage Mario quoi.
Ah oui, quand même, il y a un gros boulot,
il y a une grosse réflexion et voilà quoi. Et du coup on se trouve sur quelque chose qui est extrêmement ludique.
Eh ben merci beaucoup.
De rien.
Alors pour finir cette émission, on se proposait encore une chanson qui est pas toute jeune mais quand même va se faire plaisir. C'est Michael Field avec Tout France sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Donc on va se quitter. Salut Seb.
Salut Oliver.
En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver.
Bah, pareil.
À bientôt. Alors, peut-être des émissions pendant les vacances.
Peut-être.
Peut-être.
Peut-être. Suspense.
Mais, de toute façon, actuellement, il y a beaucoup de suspense sur beaucoup de choses. On n'est pas une surprise.
On n'est pas une surprise, pas. Bon, écoutez, bonne soirée.
Et on vous souhaite une bonne soirée. Et on laisse la place à Rudy's Back juste après.
Ouais.
Au revoir.
Au revoir.